numéro 14. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Incertaine, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'es lance, prophète de celui qui a pris corps en toi, la parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la foi. Marche avec nous, Marie, sur le mal. Voilà, ben Marie, c'est vraiment la personne de la joie. Hein, vous avez, vous rappelez donc, on le citait, l'Annonciation. Réjouis-toi. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Hein. Mon âme exalte le Seigneur, dit-elle dans le Magnificat. Donc, malgré ce que je vous disais, c'est extraordinaire, c'est que souvent dans la vie en Dieu, et pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez éprouvé dans vos existences, il y a de la souffrance. Hein. Parfois, connaissant les gens du Pélé, je sais qu'il y a eu des souffrances absolument énormes. Et en même temps, ben, ma foi, si nous nous rattachons au Seigneur, il y a quelque chose qui, petit à petit, malgré la souffrance qui restera toujours hein, quand on aime quelqu'un. Si on aime bien quelqu'un, on aime toujours. Sinon, bon, c'est les horaires SNCF, hein, on aime dans des horaires limités. Mais si on aime vraiment quelqu'un, on aime toujours. Et quand cette personne n'est plus là, ça sera toujours une cause de souffrance. Mais en même temps, pour nous chrétiens, je vous disais, il y a également de la joie. Et Marie est là pour nous guider, pour nous conduire vers cette joie. Alors, je remplis là, avant de trouver les pages. Je ne sais plus où j'en suis. J'en suis à la quatrième. Voilà. Un élément très important dans notre existence pour trouver cette joie de Dieu, vous l'avez compris, c'est que nous y soyons participants. Hein, que nous accueillons le don de Dieu. Si on ne l'accueille pas, eh bien, dans nos existences, il ne se produit rien. Hein, Dieu nous accorde sa grâce, ça veut dire, le mot grâce, ça veut dire, c'est un don gratuit, c'est gracieux, il nous donne gracieusement ce don de lui-même, vous l'avez compris, à travers les sacrements, il nous donne son propre esprit, mais c'est ce que nous avons essayé de développer ce matin. Si nous n'y participons pas, vous vous rappelez de la phrase choc, la conversion est plus grande que le baptême, hein, c'est une phrase provocatrice d'un des pères des premiers siècles. Donc, Dieu nous donne pas moins que son propre esprit, à nous de l'accueillir. Et donc, il nous faut que nous soyons participants de ce qu'il nous donne. Et cela ne peut se produire que si nous avons l'humilité de l'accueillir. Quand le Christ nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le don de ma grâce, sans le don de mon esprit, vous ne pouvez rien faire. » Sinon, tout finit par s'étioler très vite. Nous partons bien en tête, on veut bien faire. Il manquerait plus que ça qu'on veuille mal faire. Mais comme c'est basé sur nos propres forces, mais nos propres forces s'épuisent. Parce que nous sommes des êtres de chair. Mais si nous nous donnons à lui, de façon imperceptible, mais sans arrêt, il nous renouvelle, il nous en donne plus, mais dans la mesure où on se donne. Et donc, c'est assez curieux, mais chaque fois qu'on se donne à lui et qu'on se donne à nos frères, eh bien, il y a quelque chose qui se renouvelle constamment en nous et qui nous permet de découvrir chaque fois des pans entiers que nous ignorions. Et on l'a vu ce matin, même les anges sont comme ça. Les anges n'ont jamais fini de découvrir toute la beauté, toute la joie qui est en Dieu. Alors, donc, si nous accueillons la grâce et si nous avons l'humilité d'accepter ce qu'elle porte en elle, eh bien, le Seigneur accomplit, entre parenthèses, véritablement des miracles à l'intérieur de nous-mêmes. C'est spectaculaire quand on voit des gens, nous qui accompagnons des personnes, on voit au fil des ans des personnes qui changent progressivement. Ce n'est pas un truc d'un seul coup, mais on voit petit à petit le Seigneur, ils se sont ouverts au Christ. Bon, de temps en temps, ils se sont refermés. Nous nous refermons, on est pécheurs. Mais s'il y a toujours cette volonté de s'ouvrir à lui, eh bien, il nous donne ce qu'il est. Et il veut nous marquer dans le fond de sa propre forme. On avait cité l'exemple du sacrement de confirmation où nous recevons un sceau. C'est quelque chose qui s'imprime en nous comme le sceau s'imprime dans la cire. Et ce qui veut dire que la forme de l'âme, la forme de notre âme immatérielle, c'est Dieu qui est immatériel. La forme de l'âme, c'est Dieu. Donc nous sommes faits pour cette destinée divine. Et je vous lis un passage de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. L'image de Dieu imprimée dans l'âme est en effet constituée par la raison, la mémoire et la volonté. Tant que ces facultés ne portent pas l'image parfaite de Dieu, elles ne lui ressemblent pas comme au jour de la création. La forme de l'âme, c'est Dieu qui doit s'y imprimer comme un sceau dans la cire. Et c'est la seule chose qui peut nous donner, puisqu'on est dans la joie, la plénitude de la joie. Les autres choses, nous, c'est toujours à l'à peu près, puis je vous dis, ce sont des bonheurs qui s'étiolent. Et donc, la même Élisabeth dit à sa prière, la fidélité que le Maître vous demande, c'est de vous tenir en société avec l'amour, de croire qu'il agit en vous. Vous voyez, souvent, nous n'avons pas assez confiance en lui. Combien de fois j'entends dire, grosso modo, je caricature, « Oui, mais Dieu aime les autres, pas moi. » J'ai dit, c'est formidable, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Il a eu un trou de mémoire, il aime tous les autres, mais vous, il vous a oublié. Mais on peut le dire à chacun d'entre nous, souvent on a l'impression qu'il nous a oubliés, parce que nous n'avons pas cette humilité d'accueillir tel qu'il se donne, et que nous voudrions qu'il agisse de la façon qui nous plaît. Il s'en garde bien, parce que généralement ce n'est pas la bonne. Donc il aime aussi agir dans la discrétion. Alors on obtient de Dieu, dans le fond, autant que nous avons confiance en lui. Plus on a confiance en lui, plus ça lui permet de se donner. C'est facile à comprendre dans la vie courante. Si on a vraiment confiance en une personne, on lui confie les secrets, même parfois les choses lourdes dans notre vie, même parfois des choses qui sont nos péchés. Ça va pas?
Ah si.
Bon. Et voilà. Mais si on n'a pas confiance, on se garde bien d'annoncer des mauvaises choses, de dire des choses intimes aux personnes. Et donc Dieu ne peut se donner à nous que si nous lui faisons confiance. Alors, l'exercice de la confiance ne peut se faire totalement qu'avec son aide, du reste. On ébauche la confiance et avec son aide, la confiance augmente. C'est la foi. Voilà, La foi, c'est un mot qui est en une seule syllabe, que nous connaissons tous, qui n'est pas facile à saisir, mais l'exercice de la foi, c'est la confiance. Et on obtient de Dieu autant plus qu'on en a confiance. Si on n'a pas confiance, lui ne peut pas se donner, il est là, il attend à notre porte. Alors, à ce titre-là, je voudrais vous mettre en garde contre certaines choses, et qui courent souvent dans beaucoup de milieux chrétiens. On est souvent pour pallier à notre manque de foi, à notre manque de confiance en Dieu, on essaye d'étayer sa confiance sur des choses qui sont sensationnelles, sur des révélations privées, sur des personnes qui ont des charismes tout à fait particuliers, sur des apparitions qui ne sont pas reconnues. Et tout cela, on s'appuie là-dessus, plutôt que de s'appuyer, c'est-à-dire nous faisons confiance par notre tête, en ces choses-là, Et je vous dis combien il y a de, entre parenthèses, des gourous chrétiens qui fourvoient les gens dans l'erreur, sous couvert de bien. Peut-être eux-mêmes croient à ce qu'ils disent. Donc l'Église est sage quand elle reconnaît une apparition comme à Lourdes. Croyons-y, donnons-y tout notre cœur. Mais quand une chose n'est pas reconnue, soyons méfiants et méfions-nous encore plus de tous ces groupes parallèles qui sont plus ou moins submarginaux à l'Église, avec des gens qui ont reçu des révélations sensationnelles, parce que petit à petit, vous vous appuyez sur ces choses-là et vous sortez de la confiance en Dieu. Vous faites confiance en ces personnes, vous faites confiance en des choses qui sont étayables, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer directement, mais tout cela est dans votre tête. Dieu, par la confiance, se donne dans le cœur. Alors, méfiez-vous beaucoup. Combien de fois on rencontre des gens qui ont des tas de révélations. Puis j'ai découvert, parce qu'ils m'ont dit, mais allez regarder sur Internet, il y a des gens qui ont des révélations de Dieu tous les jours. Enfin, bon sang de bois, la Vierge ne s'est pas adressée tous les jours à Bernadette de sa vie. Ça a commencé au mois de mars, ça s'est arrêté à la mi-juillet, le 7 juillet. Et il y a eu quelques apparitions. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de choses de ce style-là qui, en fait, peuvent être très facilement la proie du démon, qui est assez futé pour agir sous couleur de bien, pour agir sous couleur de révélation privée. Entre autres, sur Internet, il y a un père, soi-disant, qui était au Vatican. Tous les jours, le Christ lui laisse une parole. Il y en a 31 par mois. 30 ou 31. Il n'y en a que 28 en février, bien sûr. Mais...
Il y a
une gigouille. Eh bien... Attention, hein.
On a des messages que la Vierge a...
Attention, soyez prudents. Vous avez vu ce qu'a dit le pape à propos de Medjugorje. Il n'a pas donné son veto formel, mais soyez prudents par rapport à ces choses-là. On mesure aussi l'arbre à ses fruits. Combien de gens y vont? Bon, s'ils y vont de bonne foi, ils ont des bénéfices. Hein, je me souviens de cette parole. Il peut y avoir des vrais miracles avec des fausses reliques. Parce que justement, la personne est dans la foi, elle est dans la confiance. Et à ce moment-là, le Seigneur ne va pas la laisser tomber. Alors, certainement que beaucoup de reliques du Moyen-Âge, du reste, sont fausses. Il y avait tout un commerce de reliques. Ben, évidemment, tous les gens malhonnêtes ont dû... Hein, des morceaux de la vraie croix, tout ça, ben, il y a certainement bon nombre qui ne sont pas vrais. Comme la chemise de nuit de la Sainte Vierge. Ça a été le grand pèlerinage au Moyen-Âge à Chartres. Elle est toujours conservée. Alors évidemment, c'est un tissu de l'Orient... etc. Allez donc savoir, hein. Mais il y a eu des vrais miracles à partir de ça. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que vous vous ancriez vraiment dans, comme on dit quand on écrit, que vous ancriez dans un itinéraire de foi, de confiance en Dieu, pour que ce soit lui qui agisse directement dans vos cœurs, pour qu'il puisse se donner, et donc à travers le thème qui nous intéresse, nous donner véritablement ce qu'il est, sa joie, en laissant fructifier, donc nous l'avons vu ce matin, ce qu'il nous donne dans les sacrements. Alors, à ce propos, je l'ai découvert, moi, parce qu'on m'avait demandé de faire une conférence, puis du coup, ça m'a tellement fasciné que je m'y suis attaché et que je l'étudie, j'espère un jour pouvoir faire une retraite dessus, c'est cette carmélite du XIXe siècle, Marie de Jésus crucifié. Donc, je vous disais, palestinienne, ne sachant ni lire ni écrire. Au niveau des phénomènes extraordinaires, 40 jours de possession diabolique, puis après, de nouveau, à peu près autant quand elle a été en Inde. Possession angélique. Le Christ parlait par sa bouche. Elle était au mal de peau, donc toutes les sœurs prenaient. Lévitation. On l'a trouvée facilement au-dessus de son lit, à des dizaines de centimètres, ou même tout à fait en haut des tilleuls qui sont dans l'allée principale du Carmel de Pau. Impossible d'y monter parce que un objet de quelques kilos aurait cassé ses bouts de branches. Et quand on lui demandait, par obéissance, elle redescendait immédiatement. Et c'était pas facile. Bilocation. Elle a été en plusieurs endroits à la fois. Stigmate. Dans les mains. La couronne d'épines. Au niveau du cœur. Et voilà ce qu'elle dit. Qu'il ne faut pas s'attacher à ces choses-là. La seule chose qui compte, c'est la foi. Alors souvent, dans les livres qu'on voit sur elle, il y a une accentuation sur ces phénomènes extraordinaires. Et Dieu sait qu'il y en a eu. C'est certainement, c'est peut-être pas la championne à ce niveau-là, mais elle a eu... à peu près toute la gamme des phénomènes extraordinaires. Et elle dit que, justement, ce que j'ai essayé maladroitement de vous développer, que si on s'attache à ces choses-là, on s'attache à des choses qui ne sont pas, qui ne descendent pas dans la profondeur du cœur. Et il n'y a que dans la foi, elle dit, c'est là que Dieu se donne en abondance, dans la foi, dans la confiance. Donc, à travers les sacrements, et si nous faisons confiance dans ce qu'il nous donne dans les sacrements, à ce moment-là, tout peut se déployer. Et je ferai remarquer par rapport à Medjugorje que l'Église est prudente, elle ne s'est pas encore prononcée. Et comme on mesure aussi l'arbre à ses fruits, les voyants, pour finir, il n'y en a aucun qui se soit vraiment donné au Seigneur. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont fait fortune aux États-Unis. Ça pose quand même question. Hein, Bernadette, elle est rentrée chez les Sœurs de Nevers. Et elle a vécu tout à fait cachée, effacée, avec des emplois subalternes, etc. Et Marie de Jésus crucifié essayait de vivre aussi totalement cachée. Hein, à un moment, on l'avait mis sœur de cœur, c'est-à-dire à l'époque, il y avait les sœurs qui étaient au cœur, et puis les sœurs converses qui n'étaient pas tenues à tous les offices, elle a préféré revenir sœur converse pour rester cachée dans l'humilité. Donc, ce qui compte, c'est l'humilité, enfin, c'est la foi et l'humilité pour que le Seigneur puisse agir en nous. Et non pas des choses sensationnelles. Je vous dis, il y a des gens qui vont toujours chercher des choses sensationnelles, ou des guérisseurs, des gens. Méfions-nous beaucoup de ces choses-là. Hein. Je ne voudrais pas que l'un ou l'autre tombe dans ce panneau. Alors, voyez-vous, tout ce qui est relation en Dieu, il veut toujours que nous y participions. J'accentue là-dessus, je vous l'ai dit ce matin, ce n'est pas magique. Il ne nous transforme pas en lapin blanc ou en saint. Dieu, par coup de baguette magique, ne fait pas de nous des saints. C'est nous qui sommes participants de la grâce qu'il nous donne et qui nous sanctifie petit à petit en nous faisant passer, justement, pour qu'on le perçoive, à travers plutôt ces épreuves de purification. Alors Dieu, nous ayant donné la puissance de lui devenir semblable, nous a laissé être les artisans de la ressemblance avec lui. Grégoire de Nice, que je vous citais ce matin. Alors, cela nous introduit à ce que nous verrons demain, à savoir le regard que nous portons sur Jésus. Alors, évidemment, ce n'est pas un regard avec les yeux de la chair, parce que justement, on ne voit rien. On n'est pas des extatiques ou des visionnaires. Mais l'œil de notre âme doit être constamment orienté vers Jésus. Je voulais citer les autres années, c'est le fameux verset 6 du psaume 33, « Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. » Si je regarde vers le Christ, et je vous citais ce matin la façon dont agissent de façon invariante les démons. Les démons, au lieu de nous faire regarder vers le Christ, dans la confiance, ils nous font toujours regarder vers nous-mêmes. Là aussi, ce n'est pas des expériences diaboliques, des possessions diaboliques, mais ça, cette expérience, nous le faisons tous nous-mêmes. Nous sommes tous pécheurs et nous savons toujours que nous avons tendance à nous replier sur nous. Alors, si on regarde vers le Christ, les forces des ténèbres ne peuvent rien contre nous. C'est-à-dire, si nous nous établissons dans la lumière de la foi, dans cette lumière de confiance, les démons ne peuvent pas agir en nous. Et au contraire, ça les fait fuir. Parce que les forces des ténèbres sont ténèbres et elles craignent la lumière. Comme un animal qui est aveuglé, comme un animal cavernicole. Donc, si nous regardons vers lui, nous ne pouvons pas être attaqués et avoir de fausses idées. Et si nous sommes accueillants du don de l'Esprit, qui est l'Esprit même du Christ, à ce moment-là, c'est l'Esprit qui agit en nous et qui nous protège de toute chute. Il ne faut jamais combattre les démons directement. Nous n'avons pas à les combattre, mais nous avons à combattre les idées qui sont en nous. Ils agissent toujours par des pensées et par notre imagination. Il ne faut jamais combattre directement. Ne serait-ce par le fait, si je me dis, il ne faut pas que je pense à telle chose. Hein, mon voisin m'a fait une crasse. C'est un gros dégueulasse. C'est vrai. Mais si j'y pense, si je pense qu'il faut, il dit non, c'est pas vrai, c'est pas un vrai dégueulasse. C'est faux, ça ne marchera pas ce raisonnement. Vous n'arriverez pas à vous en sortir. Il faut, au contraire, nous tourner vers le Christ. Si on se tourne vers le Christ, il y aura toujours les attaques, mais elles diminueront. Donc ils essayent toujours de nous attirer, si vous voulez, dans la ténèbre, pour nous débrouiller sans la lumière. Et forcément, ils ne peuvent pas procurer la joie. Hein, comme disait un père chez nous en rigolant, évidemment c'est pas vrai, hein, on va encore dire du mal de cette saloperie de prochain, mais ça fait tellement de bien. Alors c'est vrai, dans un premier temps ça fait du bien, ça soulage de dire des saloperies ou de diviser une communauté, ça soulage, parce que justement on ferait mieux de regarder vers soi. Si la communauté ne nous plaît pas, c'est peut-être que nous aussi nous sommes pas au diapason de la communauté et qu'il y aura peut-être quelque chose à réformer en nous. Donc dire du mal, diviser est agréable dans un premier temps, ça soulage, mais après les forces des ténèbres attaquent encore plus, et qui plus est, nous aurons apporté la zizanie au sein du groupe. Donc ne pas s'attacher, essayer de ne rien savoir en nous tournant toujours vers le Christ. Et donc j'en reviens à l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui contre-attaque. Il est aussi esprit combatif de Dieu. Et les ténèbres en ont peur. Parce qu'après tout, les ténèbres ne sont que des créatures comme nous. S'ils leur enlèvent l'être, l'existence, elles disparaissent dans le néant. Donc elles ont une trouille bleue de Dieu, de son esprit. Et si vous prenez la lettre aux Éphésiens, Éphésiens 6, 10, prenez le bouclier de la foi, le casque du salut, etc. On ne se bat pas avec un bouclier et on ne se bat pas avec un casque, on se protège. Mais le glaive, l'arme du combat, c'est l'esprit, le glaive de l'esprit. C'est l'esprit qui contre-attaque. Donc plus nous nous mettons dans le camp de l'esprit, dans le camp de Jésus et dans le camp du Père, plus nous serons sous leur protection et dans leur joie, malgré les attaques, et plus ça laissera le champ libre à l'Esprit Saint pour contre-attaquer les forces des ténèbres. Donc, je le dis, ne cherchons pas des diableries, mais les pensées, nous avons tous des mauvaises pensées, et nous avons tous des mauvaises imaginations. Personne n'y échappe. C'est en raison du péché originel qui a laissé en nous, malgré le baptême, un amour de notre moi. Et l'amour de notre moi, si nous n'en avions pas du tout, les forces des ténèbres ne pourraient pas agir en nous. Et nous n'aurions aucun péché. C'est ça le sens de la mortification. Faire mourir ce moi, pour que le moi éternel, ce que Dieu a voulu de toute éternité et qui est la joie sans fin, puisse se déployer à l'intérieur de nous-mêmes. Donc nous sommes participants en acceptant de faire mourir des choses, et c'est lui qui, pour finir, les enlève définitivement. Mais il veut au moins notre bonne volonté. Donc ne gênons pas la grâce qui désire se déployer en nous, et tournons-nous vers la source de toute joie et vers la source, la plénitude de la beauté. Et vous savez que les anges n'ont pas encore fini de découvrir la beauté de Dieu. C'est pas une beauté spécialement physique, c'est cette beauté de offrir son propre fils pour nous racheter et nous redonner la vie divine que nous avions perdue. C'est un geste qui est immensément beau. Et nous n'aurons jamais fini d'explorer la beauté de ce geste, de ce Dieu qui nous donne pour nous racheter et pour nous donner, qui plus est, sa propre vie. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin ce soir, mais retenez ceci, sans la confiance de tout ce que nous avons dit, rien ne peut se faire. Et on le comprend très bien à travers la confiance dans les relations humaines. Nous méfier beaucoup des choses qui sont très aguicheuses. Et Dieu sait, si je vous mets en garde contre ceci, parce qu'à l'heure actuelle, il y en a énormément. Et beaucoup de gens partent dans les décors ou s'enferment dans quelque chose. On voit bien, ils ne sont plus d'église. Ils sont à côté du corps du Christ. Donc, ils ne participeront à rien à une activité paroissiale. Ils ne participeront pas non plus à... ils vont être tout à côté, enfermés dans leur monde de pieuserie. Et il est très difficile de les en faire sortir, parce que de toute façon, ils sont attachés à ces révélations, et que c'est eux qui ont raison. Donc l'Église se plante complètement, tout ce que disent les papes, c'est de la gnognotte, ils n'ont rien compris. Par contre, là, ce gars qui sort de je ne sais pas où sur Internet, puisqu'il a dit ça, vous devez le constater dans vos communautés, et même... pourrait dire, au sein du pèlerinage, il y a des gens qui nous ont quittés parce qu'ils sont trop attachés à des choses comme ça. Et pour finir, ils se marginalisent par rapport à l'Église. C'est-à-dire, ils sortent du corps du Christ, progressivement. Et là, on voit quelle est l'action de ces forces ténébreuses. elles les font agir sous couleur de bien, sous excès de dévotion. Et puis pour finir, donc soyez centrés sur la confiance en Dieu. Et accueillez-le, c'est ça l'humilité, savoir que sans lui on ne peut pas y arriver. Et souvent, bon, les gens disent, viennent, mais mon père, je fais toujours les mêmes péchés. Mais dis, écoutez, c'est tant mieux. Comme ça, au moins, vous apprendrez ce qu'est la véritable humilité, à savoir que c'est pas par vos propres efforts, mais c'est par la confiance en Dieu, l'abandon en lui, que vous vous en sortirez. Et la volonté qui vous a été donnée, c'est la volonté de faire confiance en Dieu. Plus moyennant aussi les petits efforts que je vous ai dit. On chante encore quelque chose avant d'aller au lit. Hein? Oui, un truc à Marie. Généralement, le soir, on termine la journée toujours dans les communautés religieuses par un chant à la Vierge Marie.
Celui de la page 6.
Il y a celui de la page 6. Cherchez avec toi, Marie. Cherchez avec toi dans nos vies. Le Père de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Et tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Ferme la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisse tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, souviens-nous croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, en toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous, pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Eh bien, que le Dieu de tendresse daigne bénir votre sommeil. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Bonne nuit.
Il faut faire 6 heures de silence.